du point de vue historique, c'est ce qui a permis l'accès du monde entier à l'Internet à travers une technologie éditoriale d'auto-édition basée sur la norme HTML, donc l'hypertexte, et qui a déclenché un processus colossal de transformation du monde industriel et qui est en train, par ailleurs, d'être totalement dénaturé. Cette dénaturation a commencé il y a 10 ans par la combinaison entre les réseaux sociaux et les smartphones et qui a conduit à ce qu'on appelle la plateformisation ou encore le capitalisme des plateformes qui a totalement détruit l'esprit du web. Donc le web, c'est ce qu'il faut protéger aujourd'hui, qu'il faut réinventer. C'est ce qui a aussi été le résultat d'un investissement très important du Conseil européen de recherche nucléaire qui a pendant 4 ans développé tout un programme que l'Europe n'a pas été capable du tout de mettre en valeur, que le vice-président des États-Unis Al Gore a très bien analysé et qui a été exploité en fait par la Silicon Valley. Et donc c'est un scandale. C'est le scandale de l'Union européenne, incapable de comprendre la force de ses scientifiques, de ses ingénieurs, de ses idées, et donc se soumettant en fait à une logique qui est la logique de l'hyperconsumérisme américain, qui est une catastrophe. Alors il y a le capital et il y a le capitalisme. En fait, il y a les capitalismes, parce qu'il n'y a pas un capitalisme. Le capitalisme allemand, par exemple, n'est pas du tout le capitalisme français. L'italien n'est pas le même capitalisme que le français et l'allemand. Le capitalisme européen n'est pas le capitalisme américain. Et le capitalisme chinois est encore un autre type de capitalisme. Bon, ça mériterait évidemment des analyses en détail, on n'a pas le temps là de le faire. Mais pour moi, le capitalisme, c'est d'abord une dynamique que Max Weber a mise en évidence. On peut discuter évidemment sur les analyses de Weber, mais en tout cas, je pense que dans le fond, elles sont justes. Et un paradoxe du capitalisme qui est la sécularisation de ce qui, au départ, est une dimension spirituelle. La dimension du luthérianisme, disons, pour le dire un peu sommairement. Et d'autre part, Marx qui montre que le capitalisme, c'est une intégration du savoir dans l'appareil de production, une soumission du savoir à cet appareil de production à travers un processus de prolétarisation, dont Marx soutient, comme Max Weber, mais pas du tout pour les mêmes raisons, qu'il n'est pas solvable, qu'à un moment donné, il s'effondrera. Max Weber le dit pour d'autres raisons, qui sont des raisons plutôt spirituelles que des raisons économiques. Maintenant, moi je réanalyse toutes ces choses-là d'un autre point de vue, qui n'est ni celui de Weber, ni celui de Marx, qui est le point de vue de l'entropie. Et ce que je crois, c'est que le capitalisme actuel, qui est ce qu'on pourrait appeler l'hyperconsumérisme, c'est un capitalisme hyperentropique, qui est extraordinairement producteur d'entropie, c'est-à-dire qui détruit énormément de structures. Des structures sociales, des structures mentales, des structures de discipline. Par exemple, les big data font exploser tous les modèles de... Et moi, je suis un adversaire, non pas des big data, mais de ceux qui prétendent que les big data peuvent éliminer les théories, par exemple, comme Chris Anderson. Pourquoi ? Parce que derrière ça, il y a un modèle anthropique. Là, je convoque Whitehead, qui était mathématicien, philosophe et métaphysicien, même il se définissait comme tel, mais qui avait surtout posé que voilà, l'univers est un processus, process and reality, que ce processus est un processus guidé par l'entropie, et que la fonction, ce qu'il appelait la fonction de la raison, c'est de lutter contre l'entropie et d'inverser les processus. Pendant longtemps, le capitalisme a été à la fois un processus anthropique et négentropique. Bon, moi, mon point de vue, c'est le pharmacon, donc voilà, le web comme absolument tout est un pharmacon, et donc le web n'est pas ni bien ni mauvais, il est bien et mauvais, il n'est pas neutre, il est bien et mauvais, il est polarisé, et il est polarisé par le capital, le capitalisme c'est ce qui polarise absolument tout. Donc voilà, le problème est que le capitalisme aujourd'hui, c'est un capitalisme que je considère autodestructeur. Pourquoi ? Parce qu'il produit ce que j'appelle une économie purement et simplement computationnelle. qu'est-ce que ça signifie purement et simplement computationnel? Ben d'abord, c'est que c'est contradictoire avec Turing, avec Gödel, avec tous les théoriciens des fondements des mathématiques. C'est qu'il n'existe rien de purement et simplement computationnel, sauf la destruction. Donc nous sommes aujourd'hui dans un modèle capitaliste qui est autodestructeur, parce qu'il est guidé essentiellement par le profit des actionnariats, enfin pour mille raisons. Le web, j'ai toujours vu comme étant une alternative, parce que le web est au départ fait pour produire de la négantropie, c'est-à-dire pour intensifier les débats entre scientifiques. Au départ, il est fait pour ça. D'abord entre scientifiques, puis entre ingénieurs et scientifiques, et ensuite entre citoyens, ingénieurs et scientifiques. C'était vraiment le programme du CERN de développer ça. Mais il a été totalement dénaturé, il est devenu une plateforme à capter de la data et à produire de l'entropie. Donc je ne pense pas, moi, qu'on sorte du capitalisme, je pense qu'on doit dépasser un capitalisme anthropique pour entrer dans ce que je crois pas être... Je pense qu'on va vers que s'il y a un avenir dans tout ce processus, il passe par une nouvelle époque du capitalisme. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que je défends le capitalisme. Je l'ai toujours combattu, de toute façon. Mais ce que je crois, c'est que c'est pas le problème de défendre ou de... Voilà. Le problème, c'est que je pense qu'il y a une phase nouvelle de l'appareil industriel qui repose sur le calcul, parce que c'est ça le capitalisme, c'est ce qui met le calcul au cœur de l'activité, de tous les échanges. Je pense qu'on va aller vers un capitalisme qui, s'il y a de l'avenir, ce qui n'est pas du tout évident, mais s'il y a de l'avenir, on va vers un capitalisme qui sera capable d'auto-limiter le calcul et de réintroduire de l'incalculable. C'est-à-dire ce que Weber appelait l'esprit, ce que Marx appelle le communisme, parce que le communisme, pour Marx, dans le premier Marx, dans le vrai Marx, si je puis dire, c'est pas un régime politique, etc. C'est une façon de remettre le savoir au cœur de l'activité des êtres humains. Voilà, donc c'est un processus de déprolétarisation. C'est une immense question. J'écris un livre en ce moment là-dessus, qui s'appelle « L'âge post-véridique ». Je pense qu'en effet, la post-vérité, c'est ce qui conduit au fait que la vérité est un pharmacon qui peut toujours se renverser dans son contraire, et que la vérité, dans mon langage, c'est ce que j'appelle une réalité négantropique, mais j'écris négantropique avec un A et un H. Juste un petit développement sur ce point. Le GIEC a produit un rapport très important en 2014 disant que il restait 30 ans à l'humanité pour changer complètement de trajectoire, qu'ensuite c'était irréversiblement perdu. Maintenant c'est beaucoup plus grave, puisqu'ils ont fait un nouveau communiqué en disant que malheureusement les choses sont bien plus graves qu'ils ne le disaient en 2014. Mais en tout cas, en 2014, ils disaient le problème de l'activité de l'être humain dans l'anthropocène, c'est ce qu'ils appelaient les forçages anthropiques. Ils disaient anthropique avec un A et un H, c'est-à-dire l'homme en tant qu'anthropos qui force des équilibres naturels du climat, des environnements, voilà, des océans, etc., etc., du stockage de carbone dans le sous-sol, etc. Et en fait, moi je soutiens, mais c'est en dialogue ça avec Lévi-Strauss en fait depuis quelques années, en particulier avec ce que Lévi-Strauss appelait l'anthropologique avec un E, parce que Lévi-Strauss avait dit l'homme est avant tout un producteur d'entropie. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que oui, il est producteur d'entropie, mais il est aussi producteur de négantropie. Il est des deux, voilà. Et que la responsabilité d'un anthropologue, justement, comme Lévi-Strauss, c'est précisément de redonner à l'homme une dignité négantropique. Donc, ce que je pense, c'est que l'entropie, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se généralise à travers la calculabilité, sachant que, bon, ce qu'on appelle l'entropie ordinairement, c'est d'abord l'entropie thermodynamique, c'est-à-dire c'est un processus de dissipation de l'énergie, voilà, de dissipation irréversible d'énergie. Bon, ça c'est très bien connu maintenant, tout le monde connaît le deuxième principe de la thermodynamique, mais il y a deux autres dimensions de l'entropie qui sont moins connues et plus d'ailleurs sujets à discussion. C'est l'entropie biologique, c'est-à-dire la destruction de la biodiversité, c'est une forme de l'entropie. C'est ce que Schrödinger décrit dans « Qu'est-ce que la vie ?» et l'entropie informationnelle. Et là, on revient vers notre sujet. Pourquoi est-ce qu'on revient vers notre sujet ? Parce que qu'est-ce que c'est que le web ? C'est une machine informationnelle. En principe, la théorie du web, c'est la théorie de l'information. En réalité, je suis en désaccord total avec ça, parce que je pense que la théorie de l'information, ce n'est pas une théorie. C'est un bricolage de récupération d'un algorithme qui est appliqué à la thermodynamique pour essayer de traiter les problèmes de probabilité en termes de théorie de l'information. Ce bricolage a été repris par énormément de gens, en Italie d'ailleurs par Umberto Eco, mais c'est qu'un bricolage. Derrida, que nous avons beaucoup lu et fréquenté tous les deux, était très très méfiant vis-à-vis de ça. Quelle question ! Je répondais sur l'entropie avec la post-vérité. Et ce que je voulais dire, je m'aperçois maintenant que j'avais perdu le fil dans ma réponse, la question de la post-vérité. Qu'est-ce que c'est que la post-vérité ? C'est le moment où le véridique se renverse en contre-vérité. Voilà. Et ça, je pose que toute vérité est toujours un pharmacone et peut toujours se renverser en contre-vérité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous vivons dans ce qu'on appelle la post-vérité ? Eh bien, c'est précisément parce que, et là, si on en avait eu le temps, j'aurais parlé de Heidegger, parce que, précisément, on a réduit tout processus véritatif ou toute véridiction, comme disait Foucault, à un processus algorithmique, c'est-à-dire qu'on doit être capable de traiter algorithmiquement ces processus. Et ça, c'est une destruction de la vérité. Parce que la vérité est négantropique, au sens avec un A et un H, c'est-à-dire qu'elle bifurque toujours par rapport à toute capacité de calcul. Un système négantropique, c'est un système qui produit des bifurcations qui ne sont pas calculables par le système. Ça, c'est la base, la théorie de base de l'entropie et de la négantropie. Je dis ça par rapport aux mathématiques. Ce qu'on appelle la post-vérité, c'est aussi ce qu'on appelle la post-démocratie. Et donc, je fais un séminaire en ce moment d'ailleurs où je parle de cela. Est-ce qu'il y a un avenir démocratique aujourd'hui ? Je tends de plus en plus à penser que ce n'est pas la première question. La première question, c'est est-ce qu'il y a un avenir républicain ? Quand je dis républicain, c'est au sens de res publica, qui est la traduction par le latin de politeia. La politeia, ça n'est pas la démocratie. La politeia peut être aristocratique, timocratique, démocratique, en effet. Et quand on lit Kant, par exemple, dans « Qu'est-ce que les Lumières ?», la question que pose Kant, c'est là, ce qu'il appelle la République de Frédéric de Prusse. C'est un monarque, Frédéric de Prusse. Chez Kant, la République, ça ne veut pas dire la République comme la République française, par exemple. Ça veut dire l'espace public de discussion accessible à tous. Ça, c'était le projet du web. Donc ça, c'était un projet de réinvention de l'espace public, qui a en fait conduit à un espace totalement privatisé aujourd'hui. C'est exactement le contraire qui s'est engendré. Et pour moi, il faut absolument surmonter ce processus pour aller alors vers peut-être une nouvelle forme, une nouvelle pensée de la démocratie. Moi, je suis un démocrate, je défends la démocratie. Mais à condition de savoir ce qu'on appelle la démocratie. Par exemple, je me suis fâché avec un philosophe, avec qui Marc Crépon, voilà, avec qui j'écris un bouquin sur la démocratie. Bon, je me suis fâché avec lui parce que je lui ai dit un jour, mais on n'est pas en démocratie aujourd'hui. Moi, je suis d'origine, j'ai une conception marxienne de ces questions. La démocratie, ce n'est pas un formalisme qui me donne le droit de vote. Ça, ce n'est pas du tout la démocratie. La démocratie, c'est Condorcet. C'est ce qui pose la vérité au cœur des rapports entre les individus. Et c'est ce qui pose que tout individu membre de la politeia doit avoir accès au processus véritatif. Pour les apprendre, c'est ce que dit Condorcet, mais aussi pour les contester, pour les transformer, c'est-à-dire pour participer à la production de la vérité. Sachant qu'ici, la vérité, ce n'est pas un résultat scientifique. Par exemple, l'ancestralité de l'origine de l'univers avec lequel Quentin Meillassou nous casse les oreilles, ce n'est pas du tout ça la vérité. La vérité, ce n'est pas un fait, c'est un processus. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans un processus véritatif, c'est-à-dire dans ce que Simonon appelait un processus d'individuation, nous sommes dans un processus de désindividuation. À partir de là, il faut reconstruire complètement cette conception que nous avions de la République et donc de l'espace public, de la publication, parce que le web est un espace de publication, mais aussi de la démocratie, sachant que, et ça c'est l'objet d'un programme que je conduis en ce moment en Seine-Saint-Denis, la démocratie, c'est d'abord la démocratie économique. C'est ce que disait Marx aussi. Et donc, ce qui est très important, c'est de réinventer une démocratie économique. Et la démocratie économique, c'est la déprolétarisation. Par exemple, je me suis intéressé au logiciel libre énormément très tôt, parce que j'ai dirigé des équipes d'ingénieurs en logiciel libre, et ce sont des équipes de production industrielle déprolétarisées. Mais malheureusement, c'est ce que aujourd'hui tout le modèle de la Silicon Valley est en train de détruire. Voilà.